21h passées de quelques secondes sur Radion. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de votre émission littéraire, Un Wagon Livre, qui aujourd'hui se teinte de politique puisque nous accueillons devant nos micros un député. Il est né 7 ans après la disparition du général de Gaulle. À 40 ans, il est une des figures de la nouvelle droite, ne reniant pas son parcours de conseiller ministériel Place Beauvau et rue de Grenelle, puis à la présidence de la République, dans une aile de l'Élysée où il a connu très tôt les coulisses de l'action gouvernementale. Ce Sarkozien pur jus est député de Lyon à l'Assemblée nationale, ayant succédé à Jean-Pierre Soisson, figure politique romanesque. Guillaume Larrivé, bonsoir. Cette bonsoir. Présentation vous convient ?
Oui, si vous voulez. Je n'aime pas trop parler de moi ou entendre parler de moi, mais je crois que ce que vous avez dit est tout à fait correct. Ce que j'essaie d'être, c'est un député de Lyon, ancré dans notre territoire, au service des Français.
Guillaume Larrivé, vous êtes ce soir devant le micro de Wagon Livre pour un essai paru au début de cette année aux éditions Plomb, essai intitulé « Insoumission pour que vive la nation ». Alors c'est un livre dédié à la mémoire de votre grand-père, un livre à la fois très personnel et bien sûr très national, et qui s'adresse à toutes les Françaises et Français de bonne volonté qui finalement ne veulent pas se résigner au déclin de la France.
Ce que j'ai voulu dire dans ce livre, au fond, c'est une sorte d'invitation à la conversation. Je pense que la politique, elle ne parle pas assez des questions de fond. On ne parle pas assez de la France, on ne réfléchit pas assez à ce qu'est notre pays. Et comme globalement, on ne réfléchit pas assez, eh bien, on se condamne parfois à l'impuissance. Et ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est d'abord qu'il n'y a pas de fatalité et que surtout il y a un chemin français qu'on peut tracer ensemble, ce que j'appelle l'insoumission. On ne doit pas renoncer à être la France, on ne doit pas renoncer à défendre les Français, et ça passe par un certain nombre de propositions assez énergiques que j'essaie de formuler au moment où la France se cherche un chemin. Cette émission, elle est diffusée le mercredi 19 avril, dans quelques jours, le peuple français a rendez-vous avec lui-même. Je pense que c'est important que ceux qui sont engagés dans la vie publique disent des choses, et c'est le sens de ce livre.
Vous m'aviez dit que vous aimiez trop la France pour l'abandonner à des gens qui voudraient la détruire, et vous aviez ajouté « La France a un bel avenir à condition qu'on s'en occupe ». Alors, on va parler du titre de votre essai « Insoumission ». « Insoumission », c'est un clin d'œil au titre d'un roman paru en 2015 chez Flammarion, semble-t-il, sous la plume de Michel Houellebecq.
Absolument. Michel Houellebecq, qui a d'ailleurs passé une partie de son enfance à DC, empuisé dans ma circonscription, Michel Houellebecq a fait il y a 2 ans un livre assez prophétique qui s'appelle « Soumission ». Et au fond, le premier chapitre de mon livre, ça consiste à dire « il faut faire mentir Houellebecq ». C'est-à-dire il y a un scénario de la soumission de la France comme transformation en réalité de la France en une sorte de province d'un califat islamiste. Ce scénario catastrophe, il faut tout faire pour qu'il n'advienne pas. Il est possible de le déjouer, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. Je pense que la France est trop belle, la France est trop précieuse pour qu'on l'abandonne à des conquérants islamistes qui voudraient au fond détruire tout ce que nous sommes. Un pays de liberté, un pays d'égalité entre les femmes et les hommes, un pays de laïcité. C'est aussi, et d'abord, pour éviter que ce scénario de la soumission ne survienne, que j'ai écrit ce petit livre.
Alors on aura bien compris que vous redoutez 2 scénarios catastrophes. D'une part, cet islam politique triomphant dont vous venez de parler. D'autre part, le nationalisme, là je vous cite, « un front prétendument national, machine électorale pilotée par des politiciens habiles ».
Oui, je crois en réalité qu'il y a 2 scénarios catastrophes. Il y a le scénario de la soumission islamiste qui est préparé depuis de longues années maintenant par des organisations terroristes extrêmement organisées qui ont des objectifs politiques qui ont des objectifs de soumission de notre pays, et puis un autre scénario catastrophe qui serait au fond pour la France le reniement de ce qu'elle est. La France est un pays ouvert sur le grand large, la France est un pays qui doit être fier de son identité, et son identité, elle ne consiste pas à se fermer de tout. Je suis moi-même un homme de droite, je sais où j'habite, je suis fidèle à mes racines, mais je veux aussi qu'on ne renonce pas à progresser, et ça veut dire très concrètement que je ne suis pas favorable à ce qui serait un scénario de fermeture nationaliste totale qui serait extrêmement dangereux. Il ne faut jamais oublier une chose, la France, c'est un grand pays, mais c'est aussi seulement 1% de la population mondiale. Notre destin ne peut pas être celui de l'enfermement, notre destin, il passe nécessairement par des actions avec des pays partenaires en Europe. Nous ne pouvons pas être tout seul, enfermé derrière des hauts murs. On doit agir au sein du continent européen.
Guillaume Larrivé, dans votre essai, vous dites que le marinisme est un néo-communisme régressif. Marine Le Pen, héritière de Georges Marchais ?
Oui, j'ai un chapitre sur le marinisme. Je crois que Jean-Marie Le Pen était un homme politique nationaliste qui était ancré à la droite de la droite. Marine Le Pen, c'est autre chose. C'est une espèce de mélange, de mélanchonisme économique et de nationalisme. Très concrètement, j'ai été frappé ces dernières semaines dans le débat présidentiel par les convergences entre le programme mariniste et le programme mélanchoniste. Je pense que ce serait le plus sûr moyen, hélas, de ruiner notre pays que d'appliquer ce programme économique absolument délirant.
Puisque nous avons le plaisir et la chance d'avoir un membre de la représentation nationale ce soir devant le micro, Guillaume Larrivé, vous faites tout de même un état des lieux des 5 années que vous avez passées donc à l'Assemblée nationale sous la présidence de François Hollande. Alors bien sûr, on imagine bien que l'homme de droite que vous êtes donne quelques coups de griffe à ce pouvoir finissant en place. Vous dites de la présidence Hollande qu'elle est un naufrage. Vous parlez du triste paysage de la vie publique en France, et il me semblerait même que l'actualité toute récente l'a montré, quand bien même les chaînes de télévision sont capables d'organiser de très bons débats digne d'une république laïque. Et on parlera de laïcité, bien sûr.
Ouais, l'objet de mon livre n'est pas uniquement ou seulement de cogner sur les années Hollande. Je pense que l'abdication de François Hollande est désormais actée et c'est presque plus le sujet. Au-delà de ça, au-delà de sa personne, au-delà de son échec, au-delà de l'échec de toute cette équipe qu'il a dirigée avec Manuel Valls, avec Emmanuel Macron, avec tous ceux qui ont été ses ministres et qui sont aujourd'hui ses héritiers, au-delà de ça, la vraie question, c'est que le pouvoir aujourd'hui en France n'exerce plus le pouvoir, ne produit pas les résultats qu'attendraient légitimement les Français. Et ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'était que des changements politiques, des changements institutionnels sont nécessaires pour que le pouvoir exerce à nouveau le pouvoir. Très concrètement, par exemple, je plaide pour une évolution très forte de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut moins de députés, mais des députés plus puissants. Je m'interroge aussi sur l'utilité du Sénat. Je ne suis pas absolument convaincu que cette institution très ancienne ait aujourd'hui un sens au sein de la République française. Je plaide pour un gouvernement resserré. Je plaide pour la suppression du Conseil économique et social et d'un certain nombre de structures qui ne servent à rien. Je plaide surtout pour que nous, les citoyens engagés dans la vie politique, on fasse le job, qu'on agisse plutôt que de chercher à durer. La vie politique, elle est passionnante à condition de s'y investir à 100%, et c'est le sens de mon combat aujourd'hui dans la vie publique pour Lyon et pour la France.
On va marquer, si vous le voulez bien, Guillaume Larrivé, un premier temps de pause musicale. Je rappelle qu'on vous retrouve dans quelques minutes pour votre essai paru chez Plon, intitulé « Insoumission » avec ce sous-titre « Pour que vive la nation ». On se retrouve donc dans une poignée de minutes. The one.
she's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. If there's somebody calling me on, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know. You wanna see, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wind carry on. 'Cause if there's somebody calling me. And you know the way you wanna see.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'est Guillaume Larrivé, député de Lyon, qui nous accompagne ce soir dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. On a parlé de ce triste paysage de la vie publique en France. Ceci dit, il y a quelques pages très émouvantes dans votre essai où vous dites aimer les débats à l'Assemblée nationale jusqu'à très tard le matin. Vous aimez répondre aux interviews. On vous voit beaucoup à la télévision. Je me rappelle la dernière réflexion que j'ai lue de vous dans le Figaro, c'était « En marche et crève ». Par rapport au programme d'Emmanuel Macron, bien évidemment.
Oui, c'était une tribune dans le Figaro. Mais au-delà de ça, ce qui me plaît dans l'engagement politique, c'est à la fois l'action à l'Assemblée nationale, l'action nationale, mais c'est aussi évidemment l'enracinement sur le terrain. Ce livre, il a été nourri des rencontres que j'ai pu faire depuis 5 ans que je suis député. Ce livre, c'est d'abord le produit de ces rencontres, c'est le produit de ces échanges avec ces Français de Champignelles, de Saint-Fargeau, de Toussy, d'Auxerre, qui me disent, Guillaume ou monsieur le député, on n'en peut plus de cette politique qui ne produit pas de résultats. On veut, nous, les Français, continuer à exister et on attend des choses finalement assez simples. On veut être protégé des grands dangers qui menacent la France et puis on veut aussi que notre vie quotidienne, elle soit améliorée de manière très simple par un accès à la formation, un accès à l'emploi, un accès au fond à ces petits bonheurs de la vie quotidienne. Et c'est en pensant à ces Français de Puisé, d'Auxerre, de Laïenté que j'ai rencontré tout au long de ce mandat que j'ai voulu écrire ce livre pour retracer un chemin.
Alors, il est vrai aussi, et vous l'écrivez, page 23, vous dénoncez le spectacle de ministres commentant l'actualité, contemplant leur nombril et ne prenant jamais de vraies décisions utiles à la nation. Justement, beaucoup de blabla, peu de résultats. Est-ce que les hommes politiques, dont la crédibilité est de plus en plus... Comment dire, ça s'affaiblit de plus en plus, est-ce que la politique va reprendre des lettres de noblesse en France?
Il y a évidemment plein de choses à changer. Un exemple concret, moi je suis très mal à l'aise avec les séances de questions d'actualité à l'Assemblée nationale le mardi à 15h et le mercredi à 15h. Je trouve que c'est un mauvais théâtre et que collectivement les députés et les ministres ne donnent pas une bonne image de la politique. Lorsqu'on s'invective et qu'on se contente finalement de jouer une espèce de rôle consistant pour l'opposition à dire au gouvernement, ah mon Dieu c'est très mal ce que vous faites, et au gouvernement de répondre, ah ben non c'est vous qui êtes les méchants, tout ça, ça donne le sentiment d'être dans une cour de récréation. C'est pas pour ça qu'on s'engage en politique. Ce que j'ai aimé faire, par exemple, dans ce mandat, c'est des choses beaucoup plus concrètes. J'ai été vice-président de la commission d'enquête antiterrorisme. On a été capable, sur ces sujets absolument essentiels pour la sauvegarde de la France et pour la sécurité des Français, on a été capable de se mettre autour d'une table et de faire des choses utiles, par exemple, pour améliorer les techniques qui sont données à nos services de renseignement pour mieux lutter contre les djihadistes. Ça a été aussi l'honneur de notre mandat, d'être capable de temps en temps, avec les ministres actuels, de se mettre d'accord sur deux ou trois choses. Cela dit, je sais que beaucoup reste à faire pour restaurer la crédibilité de l'action publique. C'est aussi, je pense, la responsabilité de ma génération. J'ai 40 ans, c'est un âge déjà suffisamment avancé pour avoir un petit peu d'expérience. C'est un âge assez jeune encore pour avoir du jus, de l'énergie, de l'envie.
Alors, on l'a bien compris, au début de l'émission, deux inquiétudes qui vous obsèdent d'une certaine manière, Guillaume Larrivé.
Qui me préoccupe.
Préoccupe, pardonnez-moi, c'est un peu exagéré là. Un islam politique triomphant et le refus, rejet du nationalisme. Alors venons-en à cet ennemi islamiste qui, lorsqu'on vous lit, semble déjà s'être installé dans le pays. Et il est vrai que les attentats des années précédentes, jamais vus quand même, totalement inédits dans notre pays, les attentats nombreux ont montré que finalement il y avait beaucoup de failles et vous dénoncez cette menace islamiste et vous dites qu'il faut absolument agir dans l'urgence et très vite prendre les mesures efficaces.
Oui, je pense qu'au fil des décennies, les gouvernements successifs ont laissé s'installer dans notre pays et au-delà sur le continent européen de véritables ennemis de l'intérieur. Il y a des connexions très fortes, très vives entre des réseaux de délinquance et des réseaux djihadistes. Il y a des connexions très vives entre des délinquants de droit commun multirécidivistes qui n'ont pas été neutralisés d'une part et d'autre part des organisations qui ont un projet politique de subversion consistant à faire prévaloir la charia en France sur les lois de la République. Ça, c'est une réalité et je le dis avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sang-froid, il est absolument nécessaire de changer, de braquer très concrètement. Il faut que le code pénal soit appliqué dans toute sa rigueur, il faut que les peines de prison qui sont définies par la loi soient appliquées avec beaucoup de fermeté et beaucoup de détermination par la justice et par l'administration pénitentiaire. Il faut aussi qu'on transforme complètement le ministère de l'Intérieur pour en faire un véritable ministère de la sécurité nationale, ayant une autorité transversale sur les différents services de la lutte antiterroriste. Il y a un effort très déterminé, à la fois urgent et de long terme, qui doit être conduit par les plus hautes autorités de l'État. Et ce livre, à cet égard, fournit tout un mode d'emploi de propositions très opérationnelles.
Vous listez 7 erreurs françaises historique, stratégique, idéologique, pratique, juridique, politique, tragique, on a le sentiment que finalement, le pouvoir donc n'est pas exercé, on l'a bien compris, c'est une des lignes directrices de cet essai. Pourquoi cette mollesse? Pourquoi cette faiblesse? Je ne dirais pas complicité, mais pourquoi cette faiblesse à l'égard d'une menace qui a placé le pays dans une situation d'état d'urgence tout de même?
Je pense que les gouvernants se sont enfermés trop longtemps dans une forme de déni. Un déni de fond. Ils n'ont pas compris qu'on assistait au retour du tragique de l'histoire. Voilà. C'est ça, je pense, la vraie raison de fond. Les gouvernants, le président de la République actuelle en particulier, n'ont pas saisi ou ont saisi trop tard qu'on assistait à un retour du tragique de l'histoire, c'est-à-dire à un retour des menaces vitales sur le territoire national. Une fois que je dis ça, j'analyse le constat, mais surtout je fais des propositions. Je plaide pour une véritable transformation sécuritaire qui respecte bien sûr pleinement les libertés des honnêtes citoyens, mais qui en même temps permettre de réarmer la nation dans toutes ses dimensions. Une dimension juridique, je pense que l'état de droit doit être fort, s'il est faible il n'est plus l'état, il n'y a plus de droit, il y a un réarmement juridique qui doit être fait, il y a un réarmement opérationnel qui doit être conduit et qui passe notamment par un effort budgétaire très conséquent. Il faut que vous compreniez tous une chose, c'est que au fil du temps, la nation s'est désarmée. En 40 ans, on a diminué de moitié l'effort consacré par la nation à la justice, à la police, à la gendarmerie, à l'armée, aux affaires étrangères. Le cœur régalien de l'État a été désarmé au profit notamment de dépenses sociales qui sont objectivement trop élevées aujourd'hui en France. Et avec d'autres, je pense que mon devoir, c'est aussi un devoir d'alerte. Il faut que chacun ouvre les yeux. Si on veut continuer à exister comme nation, il faut faire des efforts dans le champ de la protection des Français pour lutter contre ce totalitarisme islamique qui menace notre nation.
Alors, réarmer budgétairement, on a bien compris le sens de votre message, Guillaume Larrivé, mais vous dénoncez la folie dépensière et puis vous écrivez « La France est devenue hélas la championne d'Europe des impôts, donc comment revient-on à l'équilibre? Comment faire? Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ?»
Non, moi je ne pense pas que ce soit trop tard, parce que si je le pensais, je ne serais pas engagé dans la vie politique. Je pense que la politique doit choisir. Les responsables sont faits pour être responsables, c'est-à-dire ils sont faits pour répondre de leurs actes devant le peuple français. Plutôt que de multiplier les dépenses d'assistanat social, plutôt que de multiplier les dépenses de RSA, on doit financer des magistrats, des policiers, des services de renseignement. On doit aussi, et c'est très important de le dire à ce stade de notre débat, dans une émission culturelle, on doit aussi prendre la culture au sérieux. Moi, je suis frappé de cela. On a besoin aussi d'un réarmement civique, d'un réarmement culturel. Apprenons à dire nous à nouveau. Apprenons à admirer. Apprenons à valoriser les hautes figures qui sont un exemple pour l'histoire de France et qui sont un exemple pour les jeunes générations qui arrivent. Il y a aussi un énorme affaire d'instruction publique, d'éducation nationale. Je suis l'un des lointains héritiers de Paul Bert, qui, comme moi, était député d'Auxerre et de l'Appuisé. Je pense qu'il faut renouer aussi ce fil avec nos grands anciens qui, au 19e siècle, avaient su bâtir une instruction publique. On a besoin de culture, on a besoin de belles idées, on a besoin d'émancipation des âmes et des esprits. Ça peut paraître un peu théorique, mais je pense que ça l'est pas du tout. On a besoin de montrer des perspectives aux Français, y compris aux Français qui le sont depuis moins de temps que les autres.
Finalement, vous êtes très attaché à ce qu'on appelle le roman national.
Oui, je suis très attaché en tout cas à la nation, au récit national. C'est pas théorique, c'est pas abstrait, c'est très concret, c'est une réalité de chair et de sang. En exergue de ce petit livre, je cite Paul Valéry et Romain Gary, et je voudrais citer cette phrase de Romain Gary. Je compris, dit-il, que la France était faite de 1000 visages, qu'il y en avait de beaux et de laids, de nobles et de hideux, et que je devais choisir celui qui me paraissait le plus ressemblant. Mais moi, je pense que le visage de la France est un beau visage, et c'est à nous, Français d'aujourd'hui et de demain, de faire en sorte que ce visage de la France, il soit rayonnant. Et pour ça, il faut à la fois avoir une vision et être extrêmement concret, opérationnel, déterminé à agir.
L'histoire est un sujet délicat. On sait d'ailleurs que Bernanos disait de l'histoire que c'était un grand magasin de rancune. Arrêtons aussi la repentance ?
Bien sûr, je ne supporte pas l'idée qu'il faudrait s'excuser d'être ce que nous sommes. Nous sommes les héritiers d'une histoire millénaire, une histoire à apprendre et à aimer. C'est à la fois la fête de la Fédération, mais c'est aussi le sacre de Reims. Notre histoire, elle est belle. Soyons patriotes, tout simplement. Le patriotisme, c'est la fierté d'être ce qu'on est, et c'est aussi une forme d'ouverture sur le monde. C'est pas le repli nationaliste. Soyons patriotes, assumons ce que nous sommes et montrons aussi à ceux qui veulent nous rejoindre que la France est une belle chose qu'il faut préserver, qu'il faut faire croître, qu'il faut développer avec fierté et avec aussi une forme de sérénité. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un d'énervé, je suis quelqu'un de déterminé. Je ne suis pas quelqu'un qui s'agite, je suis quelqu'un qui veut agir avec une équipe ici dans Lyon au service des Français.
Donc ne soyons donc pas coupables d'exister. Sur cette phrase que je vous laisse à méditer, on marque un nouvel intermède musical et puis nous retrouvons notre invité Guillaume Larrivé pour son essai politique Insoumission, pour que vive la nation. L'ouvrage est actuellement disponible en librairie aux éditions.
Adieu mégaphone, adieu calico. Adieu représentants syndicaux, à moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco, à moi les alizés, les vents tropicaux, et moi bien frisé sur le bateau. Adieu les traders, adieu jogging, les briefings à l'heure, Breitling, ouvrier, riez. Adieu les blouses grises en Chine, l'usine, on délocalise les coûts, on dégringole les banques, on peut rigoler, la boîte à coller. Se la coule, les douces, la pilule, on va se l'adorer. J'ai le parachute, chute dorée. Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentants syndicaux. Le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco. Adieu, château Pétrus, encore stall en vin. Adieu, les jolies putrus dans les mystères vins. Balancez les fraiseuses, les machines-outils. Ouvrier du joli gâchis, j'ai creusé, creusé, j'ai creusé la dette. Au lieu de me creuser la tête, un jour les cours ont chuté et moi parachuté, la boîte a coulé, mes pouces. Représentants syndicaux, à moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco. Adieu téléphone, adieu le bureau, secrétaire au talon haut. À moi les alizés, les ventres. Et moi, bien frisé sur le bateau, la boîte a coulé, mes pouces
on va se la couper, les douces, la pilule, on va se la dorer, j'ai le parachute.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Nous accueillons ce soir devant le micro de votre émission littéraire le député de Lyon, Guillaume Larrivé, venu avec sous le bras son dernier essai politique disponible chez Plon et qui a pour titre « Insoumission pour que vive la nation ». Parlons un peu d'Europe. Alors là aussi, on reste serein, c'est pas la peine de s'agiter comme un cabri. Guillaume Larrivé, vous souhaiteriez, si je vous ai bien lu, que la France reprenne un peu l'initiative de l'Europe, mais ne pas tout subir de l'Europe non plus. Une France forte dans une Europe aussi forte.
Ouais, je crois là aussi, vous avez tout à fait raison, que c'est un sujet clé pour l'avenir de la nation. Au fond, j'ai envie de dire à ceux qui nous ont précédés, aux gouvernements qui nous ont précédés, qu'avez-vous fait de notre Europe ? L'Europe, ça a été une très belle idée, et avec la chute du communisme en 1989, 90, 91, on a accueilli en Europe des pays qui se sont libérés du communisme. Ça, c'est très formidable. Mais concrètement, pendant qu'on a élargi l'Europe, on n'a pas été capable de l'organiser pour qu'elle s'occupe des grandes choses. Je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne s'occupe trop de petites choses qui compliquent la vie quotidienne des Européens et des Français. Et cette même Union européenne ne s'occupe pas assez des grandes choses qui engagent l'avenir de l'Europe et de la France. Très concrètement, je plaide pour une nouvelle approche européenne. J'appelle le gouvernement français à organiser avec nos partenaires les plus proches, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Benelux, le Portugal, la Pologne, à neuf. Je pense qu'il faut à neuf construire très, très concrètement des actions en matière de sécurité, des actions de maîtrise de l'immigration, des actions très opérationnelles qui permettent de mieux coopérer. Je ne crois pas du tout à une Europe technocratique, mais je crois à une Europe des États qui travaillent sur des projets concrets et on en a besoin. On ne peut pas imaginer, en particulier, régler la question migratoire sans s'organiser avec les États voisins. On voit bien qu'il y a un défi continental. Il est absolument nécessaire de s'en occuper sérieusement parce que je suis patriote, je plaide pour une autre Europe, une Europe des projets et des États.
Alors après, l'Europe aussi soutient tout de même l'agriculture française.
Bien sûr, mais sur la question agricole, il y aurait beaucoup à dire. Il y a une politique agricole commune qui est relativement efficace, mais il y a une bureaucratie française qui a rajouté des normes en plus des normes européennes, et ça, c'est évidemment une erreur. Par ailleurs, sur la question économique, l'Europe, ces dernières années, a fait preuve de naïveté. Moi, je constate que les États-Unis, par exemple, savent organiser l'accès à leur marché public pour des entreprises américaines, pendant que les Chinois font la même chose, l'Europe, elle, est restée assez naïve sur ces questions. Et il faut être beaucoup plus réaliste, y compris d'ailleurs sur l'application de la directive des travailleurs détachés. Moi, je n'accepte pas que cette directive de 1996 soit complètement détournée de son objet. Elle avait été créée pour faciliter la mobilité des cadres, un cadre français en Allemagne, un cadre berlinois à Paris, et elle est complètement détournée pour le malheur des ouvriers français et pour le malheur aussi des ouvriers européens. Moi, je plaide d'ailleurs sur la directive travailleurs détachés pour une politique de la chaise vide, c'est-à-dire je plaide à titre personnel pour qu'on ne l'applique plus tant qu'on n'a pas totalement renégocié ce texte.
Concernant les décisions de Bruxelles, certaines portent, vous le dites, de manière tatillonne sur la taille des étiquettes de soutien-gorge. Là, je prends une anecdote que vous m'aviez confiée, bon, qui peut prêter à sourire. L'Europe doit être plus ambitieuse, mais vous dénoncez aussi, dans un chapitre intitulé « Contre la tyrannie du juridisme post-national », vous dénoncez, je vous cite, « l'influence pernicieuse des membres de la Cour européenne des droits de l'homme ».
Oui, je n'accepte pas que la Cour européenne des droits de l'homme ait été extrêmement réticente, par exemple, à valider la loi française interdisant la burqa. Je pense que c'est un choix de souveraineté, l'interdiction de la burqa. On a eu raison de le faire et il n'y a aucune raison qu'on se soumette à un tribunal extérieur qui donne son avis. Il n'y a aucune raison que cette Cour européenne nous ait forcé à créer des quasi-syndicats dans les armées. Je crois que c'est une erreur et qu'il y a aucune raison qu'on se soumette à cela. Je constate aussi, je l'ai constaté lorsque je servais au ministère de l'Intérieur, et je l'ai constaté aussi comme député, que cette Cour européenne nous met des bâtons dans les roues pour expulser des terroristes islamistes extrêmement dangereux vers leur pays d'origine. Voilà, je pense qu'il faut qu'on ait une discussion hyper directe avec cette Cour européenne. Et si cette discussion est impossible, alors il faut qu'on reprenne nos billes et qu'on assume sur ces questions régaliennes une politique de souveraineté nationale qui soit une politique efficace. Si vous voulez, je ne veux pas qu'on soit théorique. Je l'ai vraiment vécu au ministère de l'Intérieur. Il y a des terroristes islamistes en France qui sont condamnés à des peines de prison et qui sont condamnés à des peines d'expulsion. Je souhaite qu'on soit capable de les expulser, même si ça déplaît à la Cour européenne.
Et c'est-à-dire que c'est le triomphe de la bien-pensance ?
C'est le juridisme bien pensant et une forme parfois de droit de l'hommisme. Vous savez, avant d'être député, je travaillais au ministère de l'Intérieur, et avant d'être au ministère de l'Intérieur, j'étais membre du Conseil d'État. J'ai été magistrat. Je respecte évidemment les droits de l'homme. Je me rattache à cette tradition humaniste française. Mais en même temps, je pense que l'État de droit, il doit être fort vis-à-vis de ses ennemis. On a des ennemis, et les ennemis, ils doivent être détruits. C'est la règle de toute nation qui veut survivre, et dans le respect des grands principes de droit, il ne faut pas être naïf, il faut être opérationnel et savoir vaincre ceux qui nous ont déclaré la guerre.
Guillaume Larrivé, justement, puisque vous parlez de loi, il y a une loi dont on entend très souvent parler dans les médias. C'est la loi de 1905 sur la laïcité. J'aimerais qu'on y revienne parce que dans votre livre, vous l'expliquez en deux points. C'est l'autonomie du politique par rapport au religieux, c'est-à-dire à la fois neutralité de l'État et son entière souveraineté ici-bas pour définir les lois de la nation. Et deuxième point, c'est la liberté pour chaque personne de croire ou de ne pas croire et donc le droit d'exercer librement le culte de son choix dans les limites de l'ordre public. Et vous m'aviez dit que finalement, beaucoup de gens invoquent cette loi sans la connaître.
Absolument. La loi de 1905, je voudrais le dire à l'antenne de Radion, elle a été co-signée par deux de mes prédécesseurs parlementaire de Lyon, Jean-Baptiste Bienvenu Martin, qui était de Saint-Brie-le-Vineux, et le docteur Merlou, qui était le maire de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Je cite cette anecdote parce que souvent, on ne le sait pas dans Lyon, mais on a deux élus de Lyon qui ont, comme ministre, comme membre du gouvernement, co-signé cette loi de 1905. Ça, c'est une anecdote. Sur le fond, vous avez totalement raison, cette loi, elle est à la fois très connue des Français et totalement méconnue dans ce qu'elle a d'extrêmement concret. C'est une loi de liberté, mais c'est aussi une loi d'ordre public. Et donc très concrètement aujourd'hui, je propose qu'on l'applique, mais qu'on l'applique vraiment au culte musulman. Il y a un certain nombre d'associations 1901 qui ne sont pas dans les clous de la loi de 1905, et il est nécessaire d'appliquer la loi de 1905. Il est nécessaire aussi, je le crois profondément, d'interdire les financements étrangers de mosquées. Il est nécessaire, je le crois profondément, de confier au ministre de l'Intérieur et au préfet le pouvoir d'urbanisme en matière de construction de mosquées après avis des conseils municipaux. Il y a eu un certain nombre de deals communautaristes entre certaines municipalités et certaines associations communautaristes islamiques. Ces deals communautaristes, ils sont contraires profondément à l'esprit de 1905. Il faut retrouver cet esprit, retrouver aussi la lettre de l'application de la loi de 1905 et l'appliquer tout simplement dans le respect des libertés, mais dans le respect aussi de l'ordre public.
Je vous lis, Guillaume Larrivé, page 105. À Rome, on vit comme un Romain, disait l'adage de nos anciens. En France, on vit comme un Français selon les lois de la France. En France, avec en plus une anaphore, en France, on ne pratique impunément ni le mariage forcé ni la répudiation. En France, on ne choisit pas le sexe du médecin qui vous soigne dans l'hôpital public. En France, on n'exige pas que les piscines municipales organisent la ségrégation des femmes et des hommes. En France, on ne cache pas son visage derrière un voile. En France, on n'exige pas un calendrier spécial pour passer ses examens ou de repas halal à la cantine des écoles. C'est vrai que vous, c'est un livre d'un homme libre qui dit ce qu'il pense, qui, à mon sens, ne manie pas la langue de bois.
Oui, parce que il faut ouvrir les yeux sur la réalité du monde et il faut agir sans plonger la tête dans le sable. Il y a des défis qui menacent l'harmonie de notre nation. Il y a des menaces contre la liberté des femmes. Il y a des menaces contre l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a des menaces contre la laïcité. Il y a des quartiers en France qui sont complètement interdits à des hommes et des femmes de bonne volonté. Voilà, il faut dire tout ça. Et surtout, après le constat, il faut agir. Moi, j'ai envie d'un ministre de l'Intérieur et de préfets qui, très concrètement, agissent pour fermer, par exemple, un certain nombre de lieux de culte qui sont des foyers de propagation de haine. Je suis tout à fait clair là-dessus. Il faut que le ministre de l'Intérieur n'hésite pas à expulser les prêcheurs de haine. Et il faut pour ça, effectivement, qu'on n'ait pas d'obstacle juridique insurmontable. Parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est eux ou nous. Et moi, parce que je suis patriote, parce que j'aime mon pays, je souhaite que ce soit nous.
La soumission ne peut être le destin de notre nation, c'est une des idées clés de l'essai politique. Insoumission pour que vive la nation de Guillaume Larrivé, dernier temps de pause musicale, et viendra le moment de conclure avec notre invité.
Oh, 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 oh
C'est Guillaume Larrivé qui nous accompagne ce soir dans Wagon Livre. J'ai rarement reçu des politiques dans cette émission, mais ça fait plaisir. Effectivement, dans quelques jours, premier tour de l'élection présidentielle. Guillaume Larrivé, sans vous importuner avec quelques questions gênantes, il n'y a pas grand-chose qui vous gêne, vous êtes un homme libre, mais comment vous avez ressenti cette campagne cette année à l'élection présidentielle, campagne jugée tout de même très particulière ?
Je le dis en effet en toute liberté, parce que je n'ai de compte à rendre qu'à ceux qui nous écoutent et à ceux des Français d'Auxerre, de Puisé, de Laillanté, du Coulangeois, de Forterre qui m'ont élu à l'Assemblée nationale. Donc je le dis vraiment en toute liberté, je n'ai pas aimé cette campagne présidentielle. J'ai trouvé que cette campagne a été méchante, j'ai trouvé que cette campagne a été médiocre, j'ai trouvé que cette campagne n'a pas assez évoqué les grandes questions qui engagent l'avenir de la nation, mais naturellement, je vais voter dimanche prochain, et parce que je suis fidèle à la ligne droite que je me suis efforcé de tracer, je voterai évidemment pour le candidat de rassemblement de la droite et du centre, le candidat qui a été choisi par la primaire de la droite et du centre, le candidat qui a le projet, je crois, le plus sérieux et le plus solide, le candidat qui fédère une équipe à la fois enthousiaste et raisonnable, et ce candidat, c'est François Fillon. Je lui apporterai bien sûr mon suffrage de citoyen auxerrois dimanche 23 avril.
Guillaume Larrivé, serez-vous candidat aux prochaines élections législatives ? Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, hein, vous êtes avocat, juriste, vous allez vous retirer de la vie politique ou vous souhaitez renouveler votre mandat ? Je vois que vous souriez.
Je pense que l'heure de la retraite n'est pas complètement venue. Je m'exprimerai dans quelques jours sur cette question, un pas après l'autre. On est engagé dans le débat d'idées et dans le débat présidentiel, mais très concrètement, mercredi 26 avril à 18h30 à la Halle aux Grains de Toussy, j'aurai l'occasion de répondre à la question que vous venez de me poser. Après la bataille de l'Élysée, il y a évidemment la bataille de l'Assemblée nationale pour une raison de fond. Le pouvoir en France, il est désigné au suffrage universel direct par deux élections qui sont également importantes, l'élection du président de la République et l'élection des députés. Ce n'est pas l'un sans l'autre, ce n'est pas l'un avec l'autre, c'est l'un après l'autre. Il faut en effet réussir à la fois l'élection présidentielle et l'élection des députés. C'est ce qui dessinera le visage de la nation dans les années à venir.
Il s'agira donc effectivement de renouveler l'Assemblée nationale, 577 députés. Je reviens sur la médiocrité de la campagne à l'élection présidentielle de cette année 2017. Est-ce que vous accordez des torts aux médias ?
Non,
qui ont été très souvent pointés du
doigt. Non, je pense que c'est une responsabilité collective. Voilà, je trouve que cette campagne présidentielle, elle a été, je vous parle très franchement, hein, elle a été d'abord beaucoup trop longue. Ça fait quasiment 2 ans et demi qu'elle est lancée. Je la trouve trop longue, je la trouve souvent confuse. Et surtout, je l'ai trouvée méchante. Je trouve qu'il y a eu beaucoup trop d'attaques personnelles et pas assez de débats de fond. Voilà, je le constate, mais encore une fois, on n'est pas là pour pleurer sur le lait renversé. Cette campagne présidentielle, voilà, elle est en train de s'achever, en tout cas pour le premier tour. Maintenant, il faut savoir où on habite. Moi, je sais parfaitement où j'habite. Je ne suis pas du tout pour la confusion. Je ne suis pas du tout pour l'illusion Macron. Je suis pour un vote Fillon.
Vous souhaitiez revenir peut-être sur certains points que nous avons évoqués précédemment ?
Non, surtout ce que je souhaite, c'est revenir un jour à l'antenne de Radion, parce que c'est une radio qui compte dans le paysage de notre département de Lyon. C'est une radio qui a vraiment trouvé sa place à la fois pour la culture, pour la détente, pour l'information, pour les idées. Et puisque je suis à l'antenne de Radion, je tiens à remercier cette équipe très, très valeureuse qui travaille pour nous donner beaucoup de plaisir et beaucoup d'intelligence partagée. Merci à vous.
Merci Guillaume Larrivé. Pour conclure, puisque Radion a une ligne musicale très pop, qu'appréciez-vous d'écouter à la maison, en voiture ou au bureau peut-être ?
J'écoute pas mal de jazz et j'écoute beaucoup de musique classique. Et même, je vais vous faire un aveu, j'ai installé un piano chez moi à Auxerre et il m'arrive, pour me détendre, de jouer un peu des inventions de Jean-Sébastien Bach.
Guillaume Larrivé, en tout cas, merci. Je rappelle le titre de votre essai « Insoumission pour que vive la nation », c'est aux éditions Plomb. Merci à vous d'avoir été ce soir devant le micro de Wagon Livre, c'est un grand plaisir. Et vous êtes vous-même un grand lecteur. Vous lisez beaucoup, j'ai vu dans votre permanence un très grand nombre.
J'essaie de lire pour maintenir mes neurones en éveil.
Parfait. Et merci. Il n'y a pas vous. Beaucoup d'hommes politiques qui lisent tant que cela. Hein. Voilà. Ce 292e numéro de Wagon Livre touche à sa fin. Merci de nous avoir accueillis chez vous aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec votre émission littéraire, mercredi 26 avril dès 21h pour le compte-rendu de la fête du livre d'Autun, dont c'était la 20e édition les 8 et 9 avril dernier. Nous vous proposerons plusieurs reportages réalisés sur place avec quelques-uns des 120 invités, dont le chanteur Marcel Hamon, Alain Bougrain-Dubourg, infatigable défenseur de la cause animale et président de la Ligue de protection des oiseaux, Bruno Doucet, qui dirige une des plus importantes maisons d'édition de poésie francophone, Laurent Janin, pour un livre de voyage consacré à son séjour de 3 semaines en Albanie, et beaucoup d'autres. Ce programme de Wagon Livre est à consulter sur Internet en pianotant yannickpetit.fr dans l'onglet prochaines émissions. Et vous retrouverez l'émission de ce soir, bien sûr, disponible d'ici quelques heures. Au passage, une petite information culturelle, parce que si nous n'en faisons pas l'antenne de Radio, vraiment, ce serait un très gros échec. Vendredi 21 avril prochain, à 18h30, c'est à Dijon, le Club des écrivains de Bourgogne recevra dès 18h30 Pascal Bruckner pour son essai « Un racisme imaginaire, islamophobie et culpabilité » paru chez Grasset. C'est au Grand Hôtel de la Cloche, place d'Arcy à Dijon, donc vendredi 21 avril dès 18h30. Une petite participation est demandée. Merci beaucoup de nous avoir reçus ce soir chez vous. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.